Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. On reparle de Danone qui avait officialisé la fermeture de l'usine Blédina de Villefranche-sur-Saône. On fait le point sur le dossier dans ce quart d'heure lyonnais. En 2025, 1771 personnes ont contacté SOS Homophobie pour relater des faits de violence physique ou psychologique liés à leur orientation sexuelle ou à leur expression de genre. Explication avec Tanguy Poiret, il est bénévole pour SOS Homophobie Lyon. Nous le recevrons dans cette édition. Champion du monde 2018, Corentin Tolisso avait l'espoir de retrouver les Bleus et de participer au Mondial 2026, mais Didier Deschamps en a décidé autrement. Et puis un hommage sera rendu ce week-end à Floridinalo.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais d'abord, cet accident impliquant 4 poids lourds qui s'est produit hier soir vers 23h sur l'A46 à hauteur de Saint-Priest dans le sens Marseille-Paris. Deux conducteurs de camions ont été légèrement blessés. Pour rappel, plusieurs chantiers sont en cours pendant ce long week-end de l'Ascension et impliquent la fermeture de l'autoroute A7 au sud de Lyon, de la M6 et de la M7. En novembre 2025, Danone officialisait la fermeture de l'usine Blédina de Villefranche-sur-Saône, une fermeture annoncée pour l'été 2027, en cause, selon la multinationale, le recul du marché européen de l'alimentation infantile, compliqué par la baisse de la natalité et l'évolution des modes de consommation. Danone assure avoir tenu deux engagements. D'abord, 400 postes en mobilité interne ont été gelés afin de permettre aux travailleurs de rebondir ailleurs en France, dont 150 en Auvergne-Rhône-Alpes. Un accompagnement au développement des compétences et à la formation a été mis en place. Un campus de transition professionnelle a été ouvert sur le site de Villefranche au début de l'année. FO évoque d'ailleurs un accord correct compte tenu du contexte économique. Trois options sont proposées, un reclassement interne avec la prise en charge du coût de déménagement et la conservation de l'ancienneté des salariés, un reclassement externe avec le versement des indemnités de licenciement, ainsi qu'un dispositif de fin de carrière. Dans tout ça reste le devenir de l'usine caladoise après la fermeture. Pour l'heure, des réflexions sont en cours. Une reprise du site est l'option privilégiée du groupe Danone, selon Le Progrès.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
En 2025, 1771 personnes ont contacté SOS Homophobie pour relater des faits de violence physique ou psychologique liés à leur orientation sexuelle ou à leur expression de genre, soit 200 de plus qu'en 2024. L'association vient de présenter son 30e rapport annuel sur l'état des LGBTI-phobies en France. Agressions, insultes, discrimination au travail ou à l'accès aux soins, harcèlement en ligne. Mais cette statistique sous-estime encore très largement la violence subie par les personnes LGBTI sur le territoire national. Nous avons rencontré Tanguy Poiret, bénévole pour SOS Homophobie à Lyon.
Ce qui a changé beaucoup, c'est aujourd'hui une libération de la haine, des paroles violentes et de la haine notamment en ligne. On parle beaucoup des réseaux sociaux, des jeunes sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, enfin sur X, anciennement Twitter. Et c'est une réalité qu'on observe, c'est-à-dire qu'on a une banalisation, une normalisation de la violence verbale dans les propos, dans les insultes, dans les menaces de mort notamment aussi, qui est absolument aberrante. Et on a la même chose sur les plateaux médiatiques, dans les journaux ou même sur les plateaux, une banalisation de la parole de haine et des violences qui fait que, de manière générale, les gens ont cette conscience qu'il est aujourd'hui possible d'avoir un discours de haine envers des personnes LGBTQIA+, envers des femmes, envers des personnes racisées, sans que ça ne pose de problème à personne. Sauf que nous, ce qu'on dit en tant qu'association, c'est que c'est absolument impossible et que c'est quelque chose qu'il faut absolument combattre. Et aujourd'hui, l'action publique n'est pas à la hauteur. L'action publique n'est pas à la hauteur et ne permet pas un endiguement avéré et un endiguement efficace de cette libéralisation des paroles de haine.
Que disent les chiffres en 2026 ?
Les chiffres sont assez parlants. De toute manière, on observe toujours une augmentation flagrante de ces cas de haine en ligne. Cette année, on a aussi mis l'accent sur notre rapport sur les cas de violence physique. Donc c'est environ un peu plus de 180 cas cette année de recensés auprès de notre association. Donc encore une fois, c'est pas exhaustif de la réalité. C'est bien en deçà d'une réalité certaines que vivent les victimes. Pour autant, au niveau de cette violence physique, on observe que un peu plus de 40% de ces violences se font dans l'espace public, donc dans la rue, dans des parcs, et donc potentiellement à la vue de tous. C'est en lien, je dirais, avec cette banalisation de la haine et de la violence. Cette haine verbale, cette violence verbale se traduit par la suite par des passages à l'acte physique et de l'agression de personnes. Et là, on se rend compte réellement qu'on met en danger en insultant en balançant de la haine sur les réseaux sociaux et sur les médias, on rend possible la mise en danger de la vie, littéralement, de personnes de la communauté LGBTQIA+.
Les conséquences, elles sont à la fois pour les victimes et pour tous ceux qui les entourent, finalement, parce qu'il y a un certain mal de vivre qui se crée par rapport à ça.
Ah ben, le mal de vivre, il est certain. Alors, il est certain pour les victimes, effectivement, parce que ce sont les premières concernées directement par les séquelles d'agression physique, d'agression verbale, de menaces de mort. On observe également beaucoup de problèmes potentiellement par la suite psychologiques qui entraînent un décrochage à l'emploi, un décrochage scolaire aussi pour les jeunes, parce que ça, on en parle très peu, mais la violence LGBTI-phobe au sein de l'institution scolaire, elle est flagrante. Et là encore, l'action publique n'est pas à la hauteur pour les endiguer et pour permettre aux élèves, de, sur un pied d'égalité, d'avoir un accès serein à un enseignement serein et pour étudier dans les meilleures conditions. Et ça, c'est une véritable problématique. Il nous faut nous en saisir et il faut que l'action publique s'en saisisse également.
Vous pointez justement l'éducation nationale et en particulier le secteur privé.
Oui, on parle beaucoup du secteur privé parce qu'effectivement, on a pu mettre en avant que le secteur privé n'était pas astreint à suivre réellement les circulaires ministérielles sur la question notamment des LGBTphobies, de la lutte contre toutes les formes de discrimination au sein de l'école. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un clivage certain et avéré et qui grandit de plus en plus entre le public où on lance des politiques et c'est très bien, c'est louable et c'est souhaitable, mais il faut aller encore plus loin, où on lance des politiques de lutte contre toutes les formes de discrimination, on met en avant l'égalité entre les filles et les garçons, on met en avant la lutte contre le sexisme, contre les racismes, l'antisémitisme, et à côté de ça, dans l'enseignement privé, nous, associations, n'avons pas forcément cet accès possible pour permettre à ces élèves du privé de bénéficier également de ces temps de sensibilisation, de cette rencontre et de ces échanges sur ces sujets-là, et c'est très problématique parce que ça risque de se poursuivre par la suite et de créer littéralement une société fragmentée sur ces questions-là.
Qu'est-ce qui en sort des témoignages que vous avez recueillis pour établir ce rapport, notamment en termes d'évolution des agressions? Quand on parlait d'agression, on parlait souvent de mots dans la rue. C'est plus le cas aujourd'hui.
Alors, c'est toujours le cas. Il y a toujours des mots, il y a toujours des insultes, des regards. Sauf qu'aujourd'hui, ce que j'expliquais, c'est qu'il y a une forme de banalisation de la violence physique également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la violence physique se explose littéralement dans l'espace public, dans les espaces intrafamiliaux, dans le voisinage, dans les institutions. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, cette violence physique, elle est de plus en plus importante. Elle prend une place encore plus importante. Et c'est un indicateur assez dramatique et qui doit nous alerter collectivement sur la suite. C'est-à-dire que si on laisse faire, qu'est-ce qui se passera dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce qu'on en sera? Et on alerte toujours sur ce qu'on appelle les discriminations du quotidien, les discriminations ordinaires, banalisées au quotidien, les petites insultes sous couvert de blagues, ce genre de choses, qui, pour le coup, sont toujours tout autant présentes, voire même plus. Sauf qu'à côté, on a aussi, pour contrebalancer, une augmentation certaine des actes violents et violents physiquement. Une atteinte aux personnes et à l'intégrité des personnes.
La faute à qui? La faute aux médias? L'ARCOM fait pas son job?
Je dirais plutôt la faute à une société qui ne regarde pas en face les problèmes qui la concernent. Parce que collectivement, on ne prend pas assez à bras le corps toutes ces questions-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens détournent simplement le regard en lisant des commentaires haineux sur les réseaux sociaux, en lisant des insultes, ou en observant des menaces de mort ou des propos absolument haineux sur les plateaux télé. On a une banalisation et la société devrait s'en saisir. La société collectivement devrait s'en saisir et se dire non. On ne peut pas continuer à laisser faire ça, parce que si on laisse continuer à faire ça, demain c'est peut-être moi qui serai attaqué, demain ce sera mes proches, et il y a réellement un besoin de toute manière à agir collectivement. Si ce sont des individus seuls qui agissent et qui veulent faire bouger les choses, ça pourra peut-être avancer, mais à quel prix et au bout de combien de temps? Tandis que si la société au complet se lève et lance un message politique aussi, amène un message politique à travers les élections en élisant des personnes qui souhaitent réellement permettre le droit pour toutes et tous de choisir de bénéficier des mêmes droits finalement, collectivement, dans ces cas-là, peut-être que les choses changeront et les choses évolueront dans le bon sens. En tout cas, c'est de nous tout ce qu'on attend.
Vous avez mené une action également auprès des sites de rencontres, je crois, en demandant une charte, où ça en est. C'est quoi le problème au niveau des sites?
Alors, jusqu'ici, au niveau des sites de rencontres, notamment des applications de rencontres, le problème, c'est qu'il n'y avait pas ou très peu de contrôle des utilisateurs et des utilisatrices. Ce qui a engendré un phénomène dont on parle de plus en plus dans les médias depuis quelques années, c'est les guet-apens homophobes. Et ces guet-apens-là, justement, s'organisent sur ces plateformes. Je n'irai pas jusqu'à dire avec la complicité de ces plateformes, parce qu'elles n'en ont pas forcément conscience, ou jusque-là, n'en avaient pas forcément conscience. Sauf qu'aujourd'hui, on en a collectivement conscience, et les plateformes ont été plus ou moins astreintes à agir dans ce sens, avec le soutien de l'action publique. Pour ce faire, justement, l'action publique a demandé à ces applications, et en lien avec des associations comme la nôtre spécialiste, d'agir et de proposer des solutions. Et en a découlé donc cette signature de charte avec le gouvernement en place et d'autres associations dont la nôtre pour engager ces applications, ces sites à proposer une réelle modération. Ces sites maintenant devront garder trace des données des utilisateurs, des utilisatrices, pardon, et pourront les transmettre le cas échéant aux autorités compétentes pour poursuivre réellement en cas de poursuite judiciaire nécessaire. Jusqu'ici, on avait les plateformes n'avaient pas la capacité de donner ces informations aux forces de l'ordre, ce qui empêchait les forces de l'ordre de retrouver les agresseurs et agresseuses. Aujourd'hui, ça sera chose potentiellement possible, en tout cas plus possible. C'est ce que ça tend à viser.
Quelles sont vos revendications à la lecture de ce rapport au niveau de SOS Homophobie plus généralement?
Les revendications restent les mêmes, un accès aux mêmes droits pour tous et tous, en dépit des différences de genre, des différences d'appartenance à une classe sociale, tout ce genre de choses. Ce qu'on attend également, c'est dans le cadre de l'éducation nationale et des milieux scolaires, une formation évidente et menée par le ministère pour l'ensemble de ses personnels. Ça passe des personnels du rectorat jusqu'aux enseignantes et enseignants. Dans ce cadre-là, on souhaite également que au niveau de l'EVAR et de l'EVARS, il y ait un bloc, un module d'intégrer dans la formation initiale des enseignantes et enseignants sur ces questions d'égalité filles-garçons, sur les questions de discrimination, de sexisme et des stéréotypes de genre, et notamment sur les questions d'EVAR et d'EVARS.
L'action de SOS Homophobie à Lyon, comment elle se traduit?
Elle se traduit par des actions de terrain assez régulièrement. On est très très présente et présent dans des lieux culturels aussi. On organise beaucoup d'événements culturels et c'est mon collègue Kai qui en parlait beaucoup parce qu'il y a beaucoup de sujets politiques ou des sujets, des thématiques sociétales qui sont assez durs à aborder parfois et qui passent par des événements culturels. On organise régulièrement des ciné-débats avec comme support donc certains films sortis il y a longtemps ou sortis plus récemment qui permettent justement d'animer des débats, des discussions et finalement d'avoir un travail de pédagogie auprès du grand public. On organise également des événements plus festifs autour desquels les bénévoles de notre association et d'autres personnes en dehors de cette association peuvent se retrouver, peuvent échanger de manière tout à fait informelle, se renseigner, s'informer. Et autour de ça, on participe régulièrement à des manifestations politiques ou non d'ailleurs. Dans tous les cas, nous sommes présents sur l'espace public et nous devons rester présentes et présents sur l'espace public. Ça vaut pour nous, SOS Homophobie, ça vaut pour l'ensemble des associations qui ont plus ou moins les mêmes sujets que nous, les mêmes thématiques, et ça vaut pour l'ensemble des personnes de la communauté LGBTQIA+. Nous devons rester visibles et nous devons continuer d'occuper l'espace public, un espace qui nous revient également de droit, au même titre que toutes les personnes hétérosexuelles.
Tanguy Poiret, bénévole pour l'association SOS Homophobie à Lyon. L'hôpital Lyon-Sud s'apprête à accueillir les 20 et 21 mai, donc la semaine prochaine, un événement dédié au cancer de l'ovaire et de l'endomètre. Un rendez-vous organisé par l'association Imagine, qui s'occupe de patientes atteintes de cancer gynécologique. Kroll, une autre association locale dont la mission est d'informer sur la maladie, sera aussi présente. Sa présidente Valérie Dinota, dont la sœur Carole est décédée d'un cancer du sein en 2023, interviendra notamment sur la thématique de la mutation des gènes BRCA1 et BRCA2 et leur dépistage. Deux jours d'information et de rencontres pour rappeler qu'un test génétique existe et peut avoir un impact majeur, non seulement pour le propre parcours de soins des personnes testées, mais aussi pour leur famille. L'enjeu étant de savoir si on porte ce gène pour pouvoir agir en conséquence. Kroll rappelle que des solutions existent pour réduire le risque que la maladie se déclare. Seront évoquées les questions de nutrition, activité physique adaptée, préhabilitation avant la prise en charge, médecine complémentaire, bien-être, estime de soi et intimité. Champion du monde 2018, Corentin Tolisso avait l'espoir de retrouver les Bleus et de participer au Mondial 2026, mais Didier Deschamps en a décidé autrement. La liste a été dévoilée lors du journal télévisé de TF1 peu avant 20h30. Si Tolisso n'a pas son visa pour les États-Unis, trois joueurs formés à l'OL feront en revanche partie du voyage et vivront leur première Coupe du Monde. Malo Augusto, qui évolue à Chelsea, Ryan Cherki à Manchester City et Bradley Barcola au PSG font en effet partie de la liste des 26 joueurs français sélectionnés. Un hommage sera rendu à Floridinalo à l'occasion du match OL-Lens dimanche à 21h. Dimanche, les applaudissements vont se faire entendre selon la tradition. Des applaudissements à la 9e minute du match en direction de Bernard Lacombe, décédé récemment, dont l'image défilera sur les écrans. Dans la foulée, à la 10e minute, comme le numéro 10 porté par Dinalo, les spectateurs devront allumer leur téléphone. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi pour une prochaine édition. Excellente journée et bon week-end.